L'instant ciné par Corinne Saunier.
Bonjour, aujourd'hui dans l'instant ciné, il sera question du film Épouse et concubine, sorti en 1991 du réalisateur chinois Zhang Yimou. Nous nous demanderons ce qui fait de ce film, aux accents de conte macabre, une allégorie du régime communiste chinois et une réflexion universelle sur la condition féminine. L'histoire se passe en Chine au début du XXe siècle. À 19 ans, Song Lian, interprétée par la magnifique Gong Li, alors la compagne du réalisateur, qui vient de perdre son père et n'a plus les moyens de financer ses études, devient la quatrième épouse d'un homme richissime, le maître Chen. Elle apprend les règles qui régissent la maisonnée. Chaque jour, une lanterne rouge posée dans la cour, devant les appartements de l'heureux élu, désigne celle qui partagera, le soir venu, la couche du maître. Pendant la journée, c'est également cette dernière qui sera la maîtresse de maison et qui fait que les trois autres épouses devront lui obéir et manger les repas qu'elle aura choisis. S'engage alors une lutte sans merci, à la fois faite de fourberies et de violences sans limite, entre les quatre épouses pour occuper la position dominante et finalement éliminer les autres, sans compter que la servante de Song Lian, dont on comprend qu'elle est aussi la maîtresse du maître, entend bien entrer dans la compétition, ce qui crée une rageuse rivalité féminine entre elle et sa maîtresse. Sorti seulement 2 ans après le printemps de Pékin et les événements de la place Tiananmen, en 1989, Épouse et concubine est une manière pour Zhang Yimou de régler ses comptes avec le régime communiste, lui dont la famille a fait partie du premier cercle des révolutionnaires de 1949, qui ont épaulé Mao Tse-tung, mais qui a tout de même subi la terrible répression des élites intellectuelles de cette dictature. Zhang Yimou, lui-même, a été obligé d'abandonner ses études pour devenir garçon de ferme, puis tisserand. Le maître, c'est bien sûr le régime, obscur, tentaculaire, sournois, brutal, dont il ne faut pas percer les arcanes du pouvoir ni contester l'autorité, sous peine d'y laisser sa vie. Le film, construit comme un conte au fil des saisons et de ses variations chromatiques impressionnantes, fait apparaître ce maître comme une sorte de barbe bleue, dont les épouses adultères ou désobéissantes sont condamnées à mort, puis comme exposées dans une maison toujours fermée, aux confins du domaine du maître, où personne n'a le droit de s'aventurer. Dans un régime totalitaire où l'on comprend tout et que l'on ne peut rien dire, tôt ou tard, c'est la folie, l'internement ou les deux qui guettent les dissidents. Et Song Lian n'échappera pas à cette règle. Elle a essayé d'épouser les codes de fonctionnement de cette polygamie mortifère, pensant l'emporter facilement, parce qu'elle est une intellectuelle, fière et forte de son instruction. Sa jeune servante, follement éprise du maître, ne sait même pas lire. Qu'elle est jeune et belle, mais il y a tout perdu, y compris sa probité et son humanité, car elle n'était pas faite pour cette existence et cette perversion de tous les instants. même si elle y contribue allègrement au plus fort de la bataille entre épouses. Dans le film, les deux couleurs qui reviennent le plus souvent sont le rouge, couleur fétiche de la troisième épouse, chanteuse d'opéra qui est un peu le trophée du maître, et le blanc, la couleur de Songliane. D'un côté, la pureté, l'innocence, et de l'autre, le crime, qui laisse du sang sur les mains. Songliane passant très rapidement de l'un à l'autre dès qu'elle entre dans le gynécée du maître. Songliane devient un être corrompu, comme les autres femmes du maître, mais elle est rattrapée par sa conscience, ce qui pouvait lui arriver de pire étant donné ce dans quoi elle s'est enferrée. Rouge et blanc, comme les éclaboussures de sang des femmes mortes sur l'épaisse couche de neige hivernale. Rouge comme les lanternes qui élisent la favorite. Rouge comme le drapeau de la Chine communiste. La narration du film se divise en saisons. Été, automne, hiver. Manque le printemps. L'absence criante de cette saison ne fait qu'en souligner l'évocation indirecte. L'on sait que le printemps peut être la métaphore de la révolution, de l'insurrection populaire. On a par exemple parlé de printemps des peuples en Europe en 1848. Comment ne pas y voir un hommage au printemps chinois de 1989, réprimé dans le sang lui aussi ? Souvenons-nous que tous les insurgés de cette courte parenthèse d'espoir seront condamnés à mort et la balle qui aura servi à les exécuter sera facturée aux familles. Ceux qui l'ont vécu à travers les images télévisées n'oublieront jamais cet étudiant se dressant debout face à une file de chars venus écraser la révolte, tenant en respect de son corps frêle et vulnérable ces immenses machines de mort. Les clichés ont fait le tour du monde et sont désormais dans nos manuels d'histoire. Le jeune homme avait pour seule arme un linge blanc. Ce qui frappe aussi dans ce film, ce qui accable même, c'est qu'à aucun moment les femmes n'ont l'idée ou l'envie de s'unir contre le maître pour équilibrer le rapport de force, voire le renverser. Jusqu'au bout, il divise pour mieux régner, encore et toujours, et se régale d'une situation dont il sort toujours gagnant. Le printemps des femmes n'a pas eu lieu non plus. Quelle plus terrible et efficace oppression que lorsque l'opprimé a intériorisé les codes de son oppresseur, ce qui est une façon d'y adhérer. Les quatre épouses ne sont jamais aussi soumises à leur maître et mari que quand elles s'affrontent cruellement, faisant ainsi son jeu. Et en même temps, que peuvent-elles bien faire d'autre ? Dans un monde patriarcal et une époque où une femme n'existe qu'à travers un homme, père, mari ou fils, les trois apparaissent dans le film. L'épouse la plus ancienne est d'ailleurs très respectée et appréciée du maître, même s'ils n'ont plus de relations sexuelles, parce qu'elle lui a donné un enfant mâle. Pourquoi n'essaierait-elle pas de conquérir l'homme entre tous, l'époux et géniteur, celui qui détient la puissance financière, la puissance tout court, par sa condition d'homme et sa fortune ? Pourquoi n'essaierait-elle pas de se mettre à l'abri, du besoin, de la misère, de la répudiation, de la mort qui rôde partout si l'on y réfléchit ? Climat oppressant de solitude et de silence dans ce film. En devenant durablement la favorite, statut qui garantit l'immunité. Woman is the nigger of the world, chantait John Lennon. La femme est le nègre, comprendre l'esclave, du monde. Le titre hautement polémique de cette chanson résume à lui seul ce qu'est être une femme dans un monde d'hommes. Les épouses du maître sont ses esclaves. Toute tentative d'émancipation équivaut à la mort. C'est sans doute pourquoi l'idylle possible entre Songliane et le fils du maître, qui a le même âge qu'elle, et qui est son père en plus humain, plus compréhensif, plus respectueux des femmes, n'a pas lieu, alors qu'à l'évidence, ils se plaisent et s'entendent en tout point. C'est aussi pourquoi la cantatrice, qui entretient une relation adultère fondée sur un amour véritable avec le médecin de famille, est exécutée sans appel et sans hésitation par le maître. Un esclave n'a pas d'existence propre en dehors de son maître, et la condamnation à mort est là pour le lui rappeler. Toutes les épouses du maître sont des mortes en sursis. D'elle, il ne veut que la fraîcheur physique, la fécondité, Songliane fait même semblant d'être enceinte pour obtenir ses faveurs et sa préférence, le lustre narcissique de les posséder. Chacune l'apprend ou l'a appris à ses dépens. Voyez ce film si vous le pouvez, car par-delà la féerie visuelle de la photographie, on peut lire un pamphlet social et politique des plus percutants, ce qui n'est pas rien. À bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma.